France Inter. .fr. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le triomphe du rail au 19e siècle.
Le 2 mai 1843, la ligne de chemin de fer Paris-Orléans était inaugurée. Le voyage coûtait 6 francs 35 et durait 3 heures. 50 années plus tard, Paris-Orléans est devenu Paris-Andaille, artère de 800 km électrifiée de bout en bout. Résultat de 100 années d'efforts.
L'histoire du chemin de fer en France remonte en fait plus loin encore dans le 19e siècle. Le bicentenaire approche, l'heure des grandes décisions aussi, même si on les repousse au-delà de la présidentielle. Le délabrement alarmant de quelques 6000 km de voies est la cause numéro 1 du grand chambardement des horaires de décembre 2011. Le manque d'entretien d'une partie du réseau met vite en cause le réseau tout entier. Le déficit structurel du système est énorme, dès lors qu'on ne met plus sous le tapis la question de l'endettement du gestionnaire des infrastructures, de RFF. Les assises du ferroviaire qui viennent de se tenir ont en outre insisté sur l'obligation de devenir heureux compatibles à la SNCF peuvent se joindre dorénavant, selon les instructions de Bruxelles, des intervenants nouveaux. Donc les urgences se resserrent, le maillage ferroviaire de la France se dessert. Revenons sur l'époque des pionniers. Avant la SNCF, l'opérateur qu'on dit historique, c'était le temps des compagnies. Avant le monopole, c'était un système mixte État-privé. Georges Ribeil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur et historien, ce qui n'est pas si fréquent. Historien des ingénieurs, historien des chemins de fer, historien des cheminots, et puis chroniqueur aussi,
oui,
de l'actualité ferroviaire.
Oui, dans le rail, ainsi que dans l'historique, qui est plus tourné vers l'histoire. Oui.
Une filiale de la vie du rail. Allez, on va commencer, disions-nous, près de 100 ans avant nous. Claude Darget résumait ainsi le temps des pionniers du premier 19e.
On pense généralement que notre premier chemin de fer fut le fameux Paris-Saint-Germain, long de 18 km, inauguré en grande pompe par la reine et le duc d'Orléans, et qui avait fort frappé l'imagination de nos ancêtres. La forêt de Saint-Germain reliée à la capitale. Pensez donc. Nous étions en 1837, mais il y avait déjà 10 ans que fonctionnait un tronçon de ligne régulier d'Andrézieux à Pont-de-l'Arne, sur la Loire, exploité par la première compagnie de chemin de fer, la compagnie de Saint-Étienne à la Loire. 4 relais, 160 wagons et 40 à 44 chevaux. Le premier voyageur en 1831 avec les premières locomotives est toujours dans ce bassin de Saint-Étienne qui fut le berceau du réseau ferré français. Mais nous étions en retard, sur la Grande-Bretagne du moins, qui ouvrit sa première voie ferrée au trafic en 1825 sur Stockton-Darlington.
Après les premiers expérimentateurs peu connus et pragmatiques du bassin de Saint-Étienne, le débat, on l'est là au début de la monarchie de Juillet, devient, Georges Ribeil, très vite un débat politique. Les députés disant le chemin de fer ne peut pas ne pas être une chose publique.
Et oui, parce que derrière, il y a les ingénieurs du corps des ponts et chaussées, ces fonctionnaires qui ont construit les routes et les canaux et qui se voient mal dépossédés de la belle technologie qui pointe en Angleterre, ces beaux chemins de fer, s'ils sont des affaires privées, ça va leur échapper. D'où ce débat politique assez coutumier en France. Tout État ou tout privé. Et ce débat qui va durer d'une session parlementaire à l'autre va retarder un petit peu l'avènement des chemins de fer à la française.
Mais il y a eu de grands discours tout de même. Lamartine, oui, les analystes de la politique s'en souviennent, comme des modèles.
Il y a autant de discours, je dirais, pro que anti, il y a des réticences fortes. Voilà. Et donc, il faut attendre 1842, la date clé où finalement on tranche. Le chemin de fer sera construit par l'État, par des rails construits par l'État, et roulera dessus des wagons, des locomotives privées, pourrait-on dire.
C'est l'État qui décide des priorités de construction et d'extension, mais l'argent, c'est un petit peu ce qu'on connaît aujourd'hui, vient largement d'ailleurs. Alors de qui? De grands banquiers, de modestes actionnaires?
Effectivement, rendons hommage à un banquier, Adolphe d'Echtal, qui va entraîner Rothschild dans le financement du Paris Saint-Germain, Paris osé. On va tester cette ligne de banlieue, Paris Saint-Germain,
1837.
Et très vite, 1837. et elle s'avère rentable. Donc du coup, il y a un déchaînement des intérêts financiers pour faire du chemin de fer. Et les Anglais qui ont une certaine expérience ou des antécédents vont venir donner un coup de main au financement des compagnies. Mais très vite, il va y avoir en France des spéculations boursières très actives, une rallemania à la bourse où chaque émission d'une compagnie, les actions émises à 500 montent à 1000-1200, c'est 1845. Avant tout ça, ne fasse pchit, bon, comme une bulle, c'est-à-dire 1847, avec donc un retour de bâton très, très important.
Mais le Second Empire va pousser les compagnies à mieux se structurer, à fusionner peut-être entre elles.
Et oui, Napoléon III a la chance, aussitôt passé le coup d'État du 2 décembre 1851, d'être porté par une conjoncture économique très favorable, hein, qui fait qu'au fond, sorti de faillite de confiture, il peut dire aux compagnies, je vous ai entendu, je vous ai compris, unissez-vous, on va construire des grandes lignes, achever ce grand réseau, d'où sortira, par exemple, en 1857, le fameux Paris-Lyon-Méditerranée. C'est la compagnie vedette au niveau européen.
Il y a combien 6 compagnies là, à la fin des années 1850.
En gros, grosso modo, on est arrivé à 6 monopoles de compagnies privées, jalouses de leur monopole. Il y a des petites compagnies, mais qui souvent, je dirais, supportent mal l'importance des grandes compagnies.
On va parler de PLM plus longuement. Paris-Orléans, c'est la compagnie qui exploite un des premiers chemins de fer. Elle est située au hôtel Vatry. Et vous avez vu que c'est devenu le siège de Google. On passe d'un réseau à l'autre. Et l'inauguration du nouveau siège de Google par Nicolas Sarkozy, c'était à peu près en même temps que les assises du ferroviaire. Alors, c'est PLM qui va exploiter une ligne qu'on va observer très près tout au long de cette émission. Parce qu'il y a des grands livres d'histoire sur les chemins de fer. Louis Girard, François Caron, Yves Leclerc, vous-même, Georges Ribeil. Mais il y a une série culte à qui est dédié un site. Cette série a été rééditée chez Koba Film en DVD. Elle date de 66-67, 20e siècle. Elle est signée Henri Spade et Henri Vincenot. Et il s'agit de la ligne qui va de Langeac en Haute-Loire à Monistrol. On est en 1866. Elle prolonge le parcours Clermont-Ferrand-Brioude. Et elle doit aller, imagine-t-on à l'époque, jusqu'à Nîmes. Alors les héros, c'est le Toine, interprété par Jacques Santi, et sa fiancée Marie, qui sera la princesse du rail. Et le Toine annonce son départ pour le chantier à Marie.
Oh, le Toine, tu t'en vas donc?
Tu n'as pas vu? On demande du monde au chemin de fer. C'est le progrès.
Le progrès, mon gars, quand on sait pas lire.
Écoute, la Marie. Le chemin de fer vient d'arriver à Langeac. On nous appelle pour le faire aller plus loin que les montagnes, jusqu'à la mer. D'autres au village sont partis avant moi.
Oui, personne ne les a jamais revus.
Tu crois qu'ils sont morts?
Non, ils ont honte. Quand on quitte son village, la maison de son père et sa fiancée, pour s'en aller courir les routes, on n'a pas de quoi être fier.
Ce n'est pas juste, la Marie. Je gagne à peine ma vie à ferrer les chevaux. Au moins, là-bas, je pourrais faire mon beau métier de chaudronnier en les aidant à fabriquer leurs machines. J'aurai de bonnes payes. Je reviendrai à l'hiver et je t'épouserai.
Le chaudronnier va participer au vaste chantier qui est comme une armée en marche avec des ouvriers spécialisés comme lui.
Absolument. Donc les chantiers ferroviaires ont été des pôles d'emploi énormes de métiers différents. Des bûcherons, des terrassiers, des chaudronniers ont contribué à une certaine prospérité sociale, hein, aussi à un exode rural. Hein, beaucoup d'Auvergnats ou Savoyards sont partis construire des tunnels ou des chantiers. Tous ces gens-là constituant, une fois que la ligne est terminée, ben finalement, les compagnies se sont dit pourquoi ne pas continuer de les embaucher au minimum sur la voie à entretenir le ballast et le rail qu'ils ont posé. Ainsi, va-t-on passer précisément du cheminot NEAU, ce prolétaire pioche à l'épaule qui chemine d'un chantier à l'autre, à ce cheminot NOT, qui est, je dirais, qui rentre au rez-de-chaussée de la compagnie, c'est-à-dire sur la voie, à entretenir la voie.
Mais pour construire les tunnels, les viaducs, les ponts en fonte de cette ligne extraordinaire de la Haute-Loire, qui est engagée dans la vallée très étroite du Haut-Allier, il faut des gens comme vous, enfin je veux dire, Georges Rémy, des ingénieurs.
Bon, c'est vrai que les ingénieurs ont bénéficié de ces chantiers ferroviaires, en particulier ingénieurs des ponts-chaussées, des centraliens, appelés pour dessiner, projeter les tracés, construire les ouvrages d'art, avec des prouesses performantes parfois. On pourrait évoquer rapidement, quand même, l'ingénieur français, il aime bien le côté très sophistiqué, hein, donc il ne se privera pas de faire des ouvrages importants, coûteux, en moellons massifs. On est à mille lieues d'une tradition américaine où le bois suffit, même si c'est un peu précaire.
Et ce, pour une ligne, rappelons-le, Langeac Monistrol, qui est appelée à être relativement peu fréquentée et qui ne provoque pas l'assentiment général. Toujours le feuilleton Spade Vincenot, débat électoral.
Vous savez que si vous le voulez, le chemin de fer passera dans votre canton, vous apportant ainsi la richesse, le bien-être et le progrès. En cédant parfois et à bon prix un peu de vos terres, vous donnerez de la valeur aux autres. Mais pour que soient menées à bien ces démarches et ces travaux, il faut que votre représentant au Conseil général soit lui aussi un homme de progrès. Eh bien, moi, je m'engage à ce que le chemin de fer passe à votre porte.
Il a raison, ils achètent bien.
Et pour aller où ce chemin de fer? À Paris, vendre nos moutons.
Si le chemin de fer passe pas de ce côté-ci de la vallée, l'argent ira à ceux du village d'en face.
C'est véridique, ça.
Défendez-vous, paysans! Empêchez le monstre à vapeur de contaminer votre sol avec ses fumées! D'engraisser vos maisons et de faner vos fleurs! Refusez le passage de la ligne!
Refusez le chemin de fer! C'est refuser tout déplacement, tout changement d'horizon!
Et le cheval, monsieur, à quoi sert-il?
Bah oui, voilà une bonne remarque d'un colonel de réserve, colonel de cavalerie, qui a surgi du fond de la salle où le candidat conseiller général tenait campagne.
Alors, ce qui est vrai, de manière générale, c'est qu'effectivement, il y a eu un engouement très important des élus ruraux pour que leur canton, leur département, soit désenclavé. Il faut souligner, effectivement, l'importance qu'a eu le chemin de fer dans la France agricole et rurale, à la fois pour amener dans les campagnes des engrais sortis des usines, et en retour, amener vers les grands marchés, à Paris en premier lieu, sur le carreau des Halles, des produits, des viandes, des légumes, sans oublier pour le PLM l'importance du vin du Midi. Le PLM sera le promoteur du Gros Rouge quittable du Languedoc, qui t'a tué au passage les bourguignons de Lyon qui allaient abreuver plutôt les guinguettes parisiennes.
Je précise que Georges Ribeil habite Lyon et qu'il milite donc pour les intérêts locaux. Souvent, les élus d'ailleurs étaient actionnaires des compagnies de chemin de fer.
Alors, ça c'est très variable. Les compagnies qui sont réputées des lignes les plus juteuses, les premières compagnies, ont attiré du monde et ce sont les banquiers qui sont réservés quasiment les actions tellement elles étaient juteuses. Une fois que le chemin de fer devient de moins en moins rentable, bien les compagnies vont devoir recourir à des émissions d'obligations, des emprunts, et faire appel largement à l'épargne française, le bas de laine français, qui est connu. Et comme l'État derrière garantit qu'il y aura un revenu chaque année garanti par l'État des actions d'obligations, avoir des actions ou des obligations de chemin de fer devient une action de bon père de famille.
Enfin, le colonel de réserve ne mettra pas un sol dans le chemin de fer. Alors, il emploie des arguments dignes des écologistes d'aujourd'hui. Les fleurs sur le bord des fenêtres vont faner, mais il va, dans le feuilleton La princesse du rail, que nous suivons pas à pas, rallier les rouliers, les aubergistes, ceux qui utilisaient le transport par eau.
Évidemment, d'autres corporations vont pâtir largement du rail. La voie d'eau, la batellerie, les diligences, mais certains, très malins et avisés, feront la reconversion rapide. Les Lafitte et Caillard abandonneront la messagerie nationale pour devenir des actionnaires importants au conseil d'administration du Paris-Orléans.
Lafitte, grand banquier, grand homme politique du milieu du 19e siècle. Le colonel n'avait pas complètement tort de prédire la désertification des campagnes. Le bilan est très difficile à faire.
Oui,
une fois que la ligne Langeac-Langogne est installée, est-ce que ça favorise le maintien en Haute-Loire des habitants?
Effectivement, c'est une question qui a été très débattue par les géographes. Là, je crois que la réponse est très ambiguë. Personnellement, je pense qu'effectivement, le chemin de fer a catalysé, facilité l'exode rural, aller vers la ville. Inversement, le chemin de fer a recruté beaucoup dans toutes ces petites gares, passages à niveau et dépôts. Donc, il a contribué à faire une géographie de la France autour de cités cheminotes, autour de faubourgs cheminots.
Allez, chantons les petites gares, Saint-Arcon d'Allier, Saint-Julien-des-Chazes, Prades, Monistrol d'Allier.
la petite gare, on retrouve les gars du patin. Et l'on s'accapare pour se raconter tous les potins. Que l'on soit pauvre ou bien millionnaire, qu'on ait 15 ans, qu'on soit sincère, on vient médire de son voisin. Madame la libraire vend des quantités de journaux, mais pour les affaires, le mieux c'est encore le bistrot. Le patron nous sert consciencieusement ses liqueurs et ses boniments, trouvant qu'on ne consomme jamais trop. Et dans le buffet depuis le premier train du matin, de janvier jusqu'à la fin décembre, nous discutons fiévreusement entre nous pour rien tout comme on fait à la chambre. Quand une parisienne nous a souri de son wagon, toute la semaine dans un rêve nous voyageons. Le sourire de deux lèvres carmin, petit adieu de la main, suffit nous idéalisons.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Fred Allison, qu'on vient d'entendre, et surtout Georges Ribeil, historien des chemins de fer, le triomphe du rail au XIXe siècle, au temps du réaménagement des horaires en décembre 2011, du réseau exténué. Alors revenons à la haute époque, l'inauguration de la ligne qui nous occupe. C'est celle qui est l'héroïne de la princesse du rail de Spade et Vincenot. C'est en Haute-Loire. On est juste en 1870. À l'instant où la guerre, on a l'instant d'avant l'orage, où la guerre va éclater.
Delorme, Madame désire visiter la plateforme d'une locomotive. Veuillez lui en faire les honneurs.
Bien, monsieur l'ingénieur.
C'est large et spacieux. Vous êtes très à l'aise. Ce sont les commandes.
Oui, ce sont les commandes. Là-bas, c'est la cheminée. Là, c'est le dôme de vapeur. Là, c'est la roue avec la clavette, la bielle, le piston. Ici, c'est le niveau d'eau. Ici, le manomètre. Là, c'est le foyer. Et là, c'est le charbon.
Oh, mais il y a de la fumée.
Attention à votre beau chapeau. Regagnez vite votre voiture.
L'heure du départ approche, madame.
Ah, monsieur, s'il vous plaît.
Montez là, le compartiment est vide.
Et lunettes, monsieur.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Des lunettes contre les escarbines.
Et on vous aveugle, en plus.
Bouillotte, messieurs, dames. Pour lever les jambes, attention. Allez, hop. Le corps du conducteur de tête, on part. Le corps du conducteur de queue, on est parti!
C'est curieux, on est à peine secoué, sauf quand on part.
Voulez-vous un peu d'eau d'écart, mon nom?
Pas encore. Et nous arriverons à Monistrol à quelle heure?
10h46.
Moins d'une heure pour venir de Langeac. C'est curieux, avec la diligence, on mettait 4 heures.
Mais au départ, on était moins secoué.
Oui, donc là, on a une séquence qui évoque effectivement le mécanicien fier de sa locomotive.
C'est Toine qui fait visiter voilà. La locomotive à la femme du sous-préfet, peut-on imaginer?
Alors là, on ne peut pas ne pas évoquer l'importance qu'a eu ce lien quasiment charnel entre le mécanicien et son chauffeur sur la cabine de conduite de la locomotive, chargée de conduire, alimentée à charbon, graissée. C'est locomotive à la française.
Pardon, mais c'est les locomotives, ça a d'abord été des locomotives anglaises.
Non, c'est locomotive... anglaise au début, mais très vite émancipée d'outre-Manche.
Ah.
Et dont les ingénieurs français se sont vertués à les rendre de plus en plus sophistiqués, donc appelant une main-d'œuvre, un mécanicien très qualifié, pour tirer le meilleur parti de sa locomotive. Donc finalement, il y a un système donc, dit de la titularisation. Le mécanicien et la chauffeur ont droit à une plaque visée sur la même locomotive avec leur nom. C'est leur locomotive. Alors effectivement, ça veut dire qu'ils sont responsables des économies de charbon, de graisse. S'il y a à l'arrivée à Lyon un peu plus du rab, pourrait-on dire, de charbon ou de graisse, mais il y aura une prime à se partager entre le mécanicien et le chauffeur.
La locomotive, là, s'appelle, elle ne va pas jusqu'à Lyon, hein. Si elle va jusqu'à Monistrol, c'est déjà pas mal, Princesse Marie, du nom de la princesse du rail, l'héroïne du feuilleton. Mais la locomotive peut porter un nom d'animal, un nom de héros de l'Antiquité, d'artiste.
Oui, effectivement, les compagnies avaient l'habitude de donner des noms à leur locomotive. Il y a des séries de l'Antiquité, les bêtes monstrueuses... enfin, genre, c'était recruté dans la mythologie, je dirais, romaine ou grecque. Hein, donc, confortant, je dirais, l'image un petit peu héroïque, symbolique de ces nouveaux engins tout puissants.
Les deux mécaniciens sont en plein vent pour leur garder la plus grande liberté possible de mouvement. Les passagers, alors, dans les wagons, on a vu l'embarquement.
Alors, les passagers, effectivement, au début, on a simplement, je dirais, détaché les caisses de diligence des roues. On a posé ces caisses sur un truck avec deux essieux, et on retrouve ainsi à l'origine des premières voitures de chemin de fer, les trois classes, qui étaient exactement qu'on retrouvait dans les diligences. Au fond, on a transporté je dirais, les compartiments des diligences sur deux essieux métalliques. D'où le cloisonnement de ces premières voitures qui sont des compartiments fermés par des qui ne circulent pas entre eux et fermés de chaque côté par des portières latérales, hein, avec ces classes 1, 2, 3. Et il faudra très vite inventer quand même le couloir latéral qui permet d'aménager des toilettes au bout du couloir.
Ah ben, je sais que vous êtes un fervent du couloir latéral parce que vous préparez un livre sur les wagons de chemin de fer. Mais le couloir latéral tel qu'on l'a connu au XXe siècle permettait la conversation. Dans les wagons du XIXe qui nous intéressent, la conversation ne baissait jamais.
Elle ne baisse jamais, mais il y a un grave défaut dans cette affaire-là. C'est-à-dire que ce petit compartiment... avec quatre sièges cloisonnés, séparés des autres, se prête bien au crime, au viol et au vol. C'est-à-dire qu'une série de crimes célèbres, d'un député jusqu'à un préfet, jusqu'à un grand juge, vont créer l'effroi auprès des autorités publiques et de l'opinion publique, parce qu'il était facile pour un voleur, violeur ou assassin d'installer dans première classe, dans un petit compartiment étroit, d'assassiner le monsieur, de le voler, et puis de jeter le cadavre sur la voie et de décarpir au premier arrêt. Donc finalement, ceci va, la pression, le danger que représentaient ces petites cases étanches contribuera largement à l'invention du couloir latéral et de ces compartiments qui communiquent entre eux.
Oui, enfin, le danger ne venait pas que de ces circonstances tout de même assez exceptionnelles. Il faut qu'on parle des accidents, quand tout à l'heure le colonel de réserve faisait campagne dans la Haute-Loire contre l'établissement de la ligne Langeac-Monistrol, il rappelait les grands accidents historiques, le 1842, Paris-Saint-Germain-en-Laye où meurt Dumont-Durville, et puis bien d'autres. Et d'ailleurs, allez, retrouvons une dernière fois la princesse du rail. Il va y avoir un accident sur la ligne. Les mécaniciens, quand on leur fait faire de trop longues journées et qu'on y ajoute des nuits de travail, ils peuvent être fatigués, et voilà.
Charge, qu'on sent, la pression est mauvaise.
Le charbon va pas pouvoir faire cuire des chandelles.
On prend du retard à chaque tour de roue. Charge, viens les charges, on prend du retard.
Écoutez, monsieur Ayot, je veux pas faire péter le chaudron pour le plaisir.
Et si on plante un chou en pleine nuit? On a le spécial derrière nous, n'oublie pas.
On peut pas être de jour et de nuit et être vaillant, moi je fais ce que je peux.
On sent qu'il y a une brasure qui a cédé, le frein serre.
J'entends l'autre qui arrive.
Flambe, flambe, train de la mort. Dans la plaine rougie, se brise et se tord. Sous un vent de folie, les petits enfants, leur maman s'appellent dans les flammes. Les amours relents réunissent leurs âmes.
Bérard, le train fatal qu'on a adjoint à la princesse du rail. Oui, la présence de l'accident de chemin de fer. Regardez Jules Verne, on va faire toute une série sur Jules Verne la semaine prochaine. Caissons défoncés, rails tordus, chaudières qui explosent dans les tunnels.
Il faut souligner que la sécurité ferroviaire repose largement sur ce corps d'agents éparpillés dans toute la nature, disséminés, sur cette mécanique horlogère dont les engrenages du rouage sont des agents. Qui entretient la voie, qui observe le signal, qui aiguille le chemin de fer. Et cette complexité, cette intégration est quand même très fragile, à la merci d'une distraction, d'un oubli.
Et les horaires de travail des mécaniciens, on a entendu celui du Langeac-Monistrol à câblé de travail.
Écoutez, les compagnies ne faisaient pas se simplifier les choses. Longtemps, les opérationnels, c'était 2 fois 12. Hein. On a passé du 2 x 12 à 3 x 8, lentement vers 1900 et surtout en 1919. Mais effectivement, beaucoup d'accidents graves. Les enquêteurs publics montraient le doigt sur le fait que le mécanicien, pressé par ses primes, sa compagnie, avait roulé 36 heures sans lâcher la cabine. Donc on pouvait imputer cette responsabilité à la compagnie qui avait usé, abusé de ses agents.
Les agents n'avaient pas les mêmes horaires selon qu'ils étaient gueule noire mécaniciens sur les locomotives, selon qu'ils étaient cutéreux pour entretenir les voies, ou dit Henri Vincenot, chieurs d'encre dans les bureaux. Et ça faisait quand même tout ça une corporation.
Oui, alors, effectivement, ça c'était, je crois, un des soucis des compagnies de faire que cet assemblage humain de métiers différents, disséminés, dispersés, fasse un corps organique, hein, Et c'est là que très vite, ils ont inventé, enfin, surtout le PLM, Gérard Vincenot, on a inventé ce thème de la famille cheminote, tous corps à corps, bien entendu, un petit peu distants par rapport au reste des civils. La famille cheminote, ça veut dire que c'est pour d'enfermement, père et fils, de père en fils. On fait les écoles du PLM, on est apprenti PLM, on succède au père dans le dépôt, on fait une école d'ingénieur, on sera, enfin, les arts et métiers. Et donc ça, le PLM a été très très loin dans cette idéologie de la grande famille, avec succès. D'ailleurs, Vincenot, pour moi, est totalement quatre générations de PLM et l'enfant exemplaire de cette culture de l'intégration du PLM.
Auteur de la vie quotidienne des chemins de fer au XIXe siècle, sa vie quotidienne s'arrête avec le plan Fraissinet, qui suit de peu l'ouverture de la ligne Langeac-Monistrol-Langogne. On est à la fin des années 1870. Là, il s'agit de mailler complètement le territoire français.
Et oui, effectivement, une fois la chute de l'Empire passée, une fois que la République, la vraie républicaine, s'installe en 1978, Gambetta, Fraissinet, il est temps de faire un chemin de fer pour tous, qui, comme l'école laïque gratuite dans toutes les communes, ce chemin de fer qui irriguerait chaque canton d'une gare, symbolisant cette justice distributive chère aux républicains, que certains accusaient un petit peu comme d'électoralisme. Chemin de fer d'intérêt local ou d'intérêt électoral.
Le réseau Fraissinet n'a pas duré longtemps.
Le réseau Fraissinet,
il est apparu comme peu rentable.
Voilà, non, mais il est démarré politiquement très très fort. Qui veut du chemin de fer, qui veut des gares, tout le monde en aura. Mais il a été victime de la grande répression des années 1980. C'est-à-dire que largement financé par des fonds publics, ben là, il n'y a plus d'argent. Donc, il sera un tiers, je dirais, entrepris et deux tiers inachevé.
Alors, finissons maintenant, non pas avec l'historien du rail que vous êtes, Georges Ribeil, mais avec le chroniqueur Historail et le magazine Le Rail. Notre époque d'aujourd'hui, grand chambardement des horaires, assise du ferroviaire, est-ce qu'elle ne ressemble pas davantage à celle dont on a parlé au début de l'émission, le milieu du 19e siècle, qu'à celle de 1914 où la France était entièrement recouverte de lignes de chemin de fer après Fraissinet?
Moi, c'est ma vision un petit peu sur le très long terme, de voir qu'au fond, peut-être qu'on est en face de l'émergence d'un nouveau système ferroviaire, hein, qui s'appelle le système de la très grande vitesse, hein, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien en termes de signalisation, d'ouvrage d'art, de sécurité. Et ce nouveau système, il est en train, comme la chrysalide, comme la larve, sortir de la chrysalide du vieux système, évidemment. Il est l'enfant, il a été accouché, branché sur le vieux système, mais il prend de plus en plus son autonomie avec ses lignes nouvelles. En même temps, il coûte très très cher. Et effectivement, il a été budgétivore les années 1990. Qui ne voulait pas du TGV, ni trop près, ni trop loin de chez lui. Mais enfin, bon, on a été dans une TGV mania, que je compare volontiers à la railway mania d'il y a un siècle et demi, avec le même engouement chez les élus politiques, hein. Sauf qu'aujourd'hui, les finances ne sont toujours pas au rendez-vous, donc il faut faire appel à une espèce de TGV mania. Si vous voulez un TGV ou élus régionaux, il faut aller mettre de l'argent au bassin.
Alors il faut donc que les collectivités régionales apportent de l'argent, et puis la réglementation européenne nouvelle aidant, il va bientôt falloir envisager la participation d'opérateurs privés nouveaux. Alors le Paris-Venise de nuit, c'est un peu anecdotique, mais la ministre dit, 2014, on peut envisager des trains d'intérêt régionaux, l'équivalent des corails ou des TER avec financement privé et opérateurs privés.
Tout ça, vous avez tout à fait raison. C'est un petit peu la tendance de la désintégration du système au profit donc de bas morceaux, je dirais, confiés à des opérateurs privés. Mais n'oublions pas aussi que les prochaines lignes grande vitesse seront financées par des compagnies concessionnaires. Et c'est en train de voir cette ruse de l'histoire, du retour vers des modèles de compagnies privées qui vont reprendre le flambeau du chemin de fer.
Comparaison 2011-1837, quand le Paris Saint-Germain est parti, il avait du retard à l'arrivée à Saint-Germain. Le cuisinier a dû mettre les pommes sautées de nouveau dans l'eau bouillante et ça a permis d'inventer la pomme soufflée. Mais il faut être très exact, hein, l'orolatrie nous caractérise. Marie Casanova, Franck Olivard, Frédéric Martin, Meryl Moneghetti, Martin Penet ont préparé cette émission. Demain, nous parlerons nourriture avec la truffe. Et puis je salue aussi Gilles Gaillard et Yann Bouillot.